Le silence des petits papiers, chapitre 33. Au fur et à mesure de ces investigations, une piste sérieuse se présenta. Le pulse prenait forme. Hélène comprenait ses insomnies et son froncement de sourcils fréquent. Jamais il n'aurait pensé se trouver confronté à une telle énigme. Il en arrivait parfois à maudire l'erreur du facteur, à supposer qu'il s'agisse d'une méprise. Depuis le début, rien n'était simple. Et les cadavres jonchaient le parcours, certains ayant une faim provoquée, d'autres étant partis pour cause de fin de voyage. Il ne s'attarda pas sur la disparition du père Léonard. C'était le déroulement normal d'une existence avec ses bonnes actions et ses zones d'ombre. La mort d'Yvonne Pivier l'interpella. Aujourd'hui, il admettait ses craintes et sa dernière lettre confirmait ses dires. Il décida de porter son attention sur les personnes découvertes en avant-pays et en Chartreuse. Il espérait que les cadavres découverts avaient fourni quelque indice. Il se faisait guère d'illusions. Les services de gendarmerie et de police ne viendraient pas lui fournir les réponses à ses interrogations. Il décida d'aller pêcher l'information auprès des journalistes ayant couvert ses affaires. Cela se révéla plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le journal était en pleine réorganisation avec un déménagement à la clé. Il ne put avoir accès aux archives. On lui signifia qu'il faudrait attendre quelques semaines, le temps de s'installer avec un fonctionnement normal dans les nouveaux locaux. Jean-Christophe ne voulut pas montrer son agacement face à l'adversité. Seul son sourcil pouvait le trahir. Il parvint à obtenir les coordonnées téléphoniques des deux journalistes ayant eu à sévir sur les secteurs concernés par les découvertes morbides. Il préféra attendre d'avoir consulté les articles écrits par les auteurs avant d'envisager de les rencontrer. Il ne souhaitait pas que son intérêt pour ces crimes soit interprété et colporté. Deux semaines plus tard, il se présenta au nouveau siège du journal. Une odeur de peinture fraîche le saisit. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'il fut hélé par une jeune femme. Cette dernière lui demanda ce qu'il désirait. Subjugué par la beauté de son interlocutrice, il bafouilla quelques onomatopées avant de préciser qu'il reviendrait lorsque la peinture serait sèche. Cette boutade la fit rire. Jean-Christophe possédait ce don de détendre l'atmosphère par quelques mots choisis. Ici, il avait fait mouche. La jeune femme se présenta. Elle se prénommait Elsa. Aussitôt, il lui parla d'Aragon. Elle lui répliqua que ses parents avaient choisi ce prénom justement par rapport au poème d'amour que l'écrivain avait écrit. Maintenant, il savait qu'elle s'occupait de la rubrique art et culture. Ce n'est pas exactement dans ce domaine qu'il effectuait des recherches. Il lui expliqua qu'il était l'auteur de quelque ouvrage. Il précisa que dans le cadre du livre qu'il écrivait actuellement, il se documentait sur des faits divers récents. Elsa l'écouta avec attention. Elle l'emmena dans son bureau. Dans le couloir blanc, sa silhouette aux courbes parfaites réveilla sa rétine fatiguée. Au milieu des cartons, pas encore déballés, ils s'installèrent. Ils n'étaient pas venus avec les coupures de l'enveloppe, se contentant de noter sur un calepin les dates des découvertes des cadavres. Elsa mit en marche son ordinateur portable. Avec dextérité, elle navigua d'une fenêtre à l'autre sur l'intranet du journal. Elle fit une moue de dégoût lorsqu'elle eut connaissance du premier article. « Vous avez de la chance. Les papiers concernant ces affaires sont tous en archivage numérique. Il n'y a pas très longtemps que notre direction a pris la décision d'informatiser les archives. Eh bien, Elsa, je peux vous appeler ainsi, c'est mon jour de chance. » Elle fit un mouvement de la tête en signe d'approbation. « Oui, certainement, plus que ces pauvres gens assassinés. On ne sait pour quelle raison. Aucune cause ne justifie la sauvagerie. C'est mon collègue Gilbert qui a enquêté sur ces drames. Il est là. J'ai bu le café avec lui. Si vous voulez, je lui demande de passer nous voir. Avec plaisir, Elsa. » Elle décrocha le combiné pour joindre son camarade. Une minute plus tard, Jean-Christophe rencontrait Gilbert Brunel. L'homme grand, à la carrure de sportif, lui serra la main d'une poigne vigoureuse. Cette prise de contact réjouit le visiteur. C'était plus facile d'aborder la discussion dans ces conditions. Après quelques secondes d'échange de banalités, ils dialoguèrent sur les différentes affaires. Le journaliste lui confia qu'il avait eu des éléments nouveaux qui n'avaient pas été portés à la connaissance du public. Cette révélation déclencha un froncement de sourcils chez Jean-Christophe. En effet, Gilbert lui confia que la jeune femme découverte derrière la cascade du cirque de Saint-Mesmes et le bébé suspendu au-dessus de la rivière au pont François Ier appartenaient à la même famille. Il s'agissait de la mère et de son fils. Cette information n'avait pas été donnée par les enquêteurs afin de pouvoir poursuivre plus sereinement leurs recherches. Gilbert avait des amis bien placés au niveau de l'enquête. Le journalisme d'investigation nécessite une grande compréhension de tous les rouages des machines policières et judiciaires. Le sieur Brunel avait su se construire tout au long des années un tissu d'amitié fort utile. Il savait en user à bon escient et garder un tuyau pour plus tard. C'est à ce prix qu'il pouvait sortir de temps à autre des scoops retentissants. Jean-Christophe réfléchissait à la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Elle lui apportait rien de plus par rapport à sa quête. Le lien entre ces deux victimes ne lui permettait pas de les relier à l'un des petits papiers qu'il avait en sa possession. Il évoluait dans un abîme de perplexité lorsqu'une autre phrase, lâchée par son interlocuteur, retint forcément son attention. Il révéla que les gendarmes avaient trouvé un ticket de transport dans une poche du cadavre du monument Charles-Emmanuel II. Un de même provenance fut récupéré dans le sac contenant le bébé. La suite des propos de Gilbert le conforta dans son idée. Il ne dit rien à son informateur, mais la provenance du titre de transport ne laissa planer aucun doute dans son esprit. Les billets avaient été délivrés par une compagnie de transport napolitaine. Pour lui, tout ça ressemblait à un règlement de compte. Il pressentait la griffe de la mafia. À cet instant précis, il envisagea une corrélation entre les incendies de granges et les meurtres perpétrés dans la région. Il remercia chaleureusement Gilbert et la jeune Elsa. Un contre-jour bienvenu lui prouva qu'elle portait des sous-vêtements ne couvrant que le minimum de son intimité. Il s'efforça de ne point faire paraître le plaisir de ce spectacle. Elle lui proposa de le rencontrer à nouveau pour faire un article sur son activité littéraire. Il s'empressa de mettre la carte de la jeune femme dans son portefeuille. C'était un contact à garder.